Vous écoutez RTL.
Il est 9h.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Dans un instant, notre rencontre que je qualifierais de franche et intimiste avec le réalisateur québécois Xavier Dolan. Il est notre invité à l'occasion de la sortie mercredi prochain de son nouveau film « Juste la fin du monde ». Au menu également de la musique avec Steven Bellery, Julien Clerc a choisi « Laissez-vous tenter » pour nous présenter une nouvelle chanson et nous annoncer une tournée anniversaire. Patricia Cass, elle, nous dévoilera « Madame Tout-le-Monde », un nouveau titre de son prochain album. Et puis nous retrouverons Laurent Marsic à La Rochelle pour un avant-goût des nouveautés présentées au Festival de la Fiction Télé.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Bonjour Xavier Dolan.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin sur RTL avant la sortie mercredi prochain de votre nouveau film « Juste la fin du monde ». Nous allons en parler avec Stéphane Boutsock. Nous écouterons deux de vos comédiennes, Nathalie Baye et Léa Seydoux. Et puis nous ferons gagner à nos auditeurs des places de cinéma pour aller découvrir votre long métrage « Juste la fin du monde » et votre sixième film en 7 ans. Vous êtes en train de terminer le 7e, prévu pour l'an prochain. Et tout cela à 27 ans seulement. N'avez-vous pas parfois l'envie de savourer tout ce qui vous est arrivé entre votre premier moteur et le succès de vos dernières réalisations, c'est-à-dire un peu de calme, un peu de succès assumé?
Oui, surtout dernièrement, en fait, j'ai envie d'un répit, d'un moment de retrait.
Vous diriez que vous êtes sous pression?
Non, c'est pas de la pression, c'est de la fatigue accumulée, et puis c'est des préoccupations, comme par exemple, j'ai passé toute ma vingtaine à faire des films, puis j'ai l'impression que je suis passé à côté d'autres choses, d'autres passages obligés, d'autres épisodes, d'autres événements qui sont typiques de la jeunesse, puis que au lieu de vivre cette jeunesse, j'ai fait des films, ce qui m'a permis d'accomplir des choses, puis de me sentir épanoui d'une certaine manière, mais j'ai besoin de vivre une sorte d'épanouissement ailleurs, je pense, maintenant.
Alors Stéphane, vous nous parlez de façon dithyrambique, hein, de juste la fin du monde depuis le dernier Festival de Cannes, où le film de Xavier Dolan était l'un de vos favoris pour la Palme d'Or. Rappelons que le film est reparti de la croisette avec le Grand Prix du jury. Dessinez-nous les grandes lignes de cette histoire de famille.
Alors vous savez, parmi les 300 films que voit chaque année un journaliste de cinéma, il y a ceux qui passent, beaucoup. Et puis, il y a ceux qui restent. Eh ben, le vôtre, Xavier, est toujours là, quelques mois après. Et puis, je crois qu'il y est pour un moment. Juste la fin du monde, c'est le retour à la maison de Louis, jeune artiste qui vient annoncer à sa famille qu'il va mourir. Le souci, c'est que la famille de Louis, sa mère, sa sœur, son frère et la femme de celui-ci, bah, c'est une sorte de cage aux fauves dont il s'est sauvé. Et on va comprendre pourquoi il y a 12 ans. Écoutez cet extrait. Tout part d'une idée banale. Louis voudrait revoir une maison d'enfance.
Tu veux te retrouver dans cette piole de chiasse pour voir comment le temps a malmené, modifié. T'as pas un plan plus à l'avant-moi-le-deux pour les faire en famille comme ça tous ensemble, hein ?
Antoine.
Non mais je dis pas ça pour t'insulter, oui, mais...
Non, de toute évidence.
Mais laisse-le, Antoine, écoute. Il a juste envie d'aller se promener.
C'est pas grave. C'était une mauvaise idée.
Bah, évidemment.
Bon, allez. Alors, Louis, ben raconte. Raconte-nous une histoire. Des potins. Hein, qui a couché avec qui a baisé qui s'est fait baiser.
J'ai pas de potin, je sors plus beaucoup.
Vous prendrez peut-être un café? J'allais en faire un. Vous voyez comme ça toute votre vie, tous les deux.
Et qu'est-ce que t'as peu de foutre? Tu leur fous la paix un peu, ouais.
Je te demande rien, ok, alors t'as de me faire chier.
Comment tu me parles?
C'est mérité, quoi.
Ah, j'ai mal choisi le moment. Moi qui allais dire que j'étais contente qu'on soit là, tous ensemble.
Nathalie Baye, Vincent Cassel, Léa Seydoux, Marion Cotillard et Gaspard Ulliel composent donc ce club des cinq. Clan désuni et soudé, où on s'engueule pour se dire je t'aime, où les non-dits, les silences, les regards, les gestes sont beaucoup plus parlants que les mots. Et pourtant, Dieu sait si on se les balance à la figure dans le film. En adaptant la pièce de Jean-Luc Lagarde, Xavier, vous proposez un moment de cinéma rare, intense, où le texte de l'auteur et votre don pour l'image se complètent de manière magistrale, je dirais même instinctive. C'est un texte que vous avez découvert, me semble-t-il, au début des années 2010. Vous avez mis du temps à l'apprivoiser. Il fallait pour ça quoi, vieillir, grandir?
Je sais pas, j'imagine, oui. Tout à coup, j'ai ouvert le texte, puis les choses que j'arrivais pas à ressentir ou que j'arrivais pas à voir étaient tout à coup ressenties et vues. Tout faisait surface. Je pense que ce qui était le plus évident, surtout, c'était que la carapace tellement épineuse, rugueuse des personnages, leur maladresse, leur agressivité, puis la toxicité de leurs reproches, en fait, déguisés, puis masquaient une douleur très profonde. Puis c'est, je pense, l'indice ou le symptôme des personnages aux textures les plus intéressantes, surtout au cinéma, quand on peut aller en profondeur, puis proposer des surfaces, puis après aller gratter en dessous pour voir ce qui constitue les souffrances les plus profondes des gens. C'était toutes les promesses, en fait, d'un film intéressants, avec des personnages intéressants, des personnages humains, des personnages multidimensionnels. Tout était dans le texte de Lagarce, tout à coup.
Alors, Xavier Dolan, de « J'ai tué ma mère », votre premier film, à celui-ci, en passant par « Momie », on se dit que les affaires de famille, la relation aux parents notamment, est un sujet qui vous fascine et vous obsède. Si oui, pourquoi ?
Je sais pas en fait, parce que
vous ne savez vraiment pas.
Non, c'est pas que je sais pas que je le sais pas, c'est que je connais peu d'autres choses. J'ai une éducation assez élémentaire. D'abord, premièrement, je suis un décrocheur scolaire. J'ai en même temps, j'ai pas je peux non plus illettré, mais j'ai
non, je crois pas,
non, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai pas de bac, ou j'ai pas de j'ai poursuivi aucune étude collégiale ni universitaire. J'ai construit une culture un peu hétéroclite entre plusieurs films commerciaux, puis quelques meilleurs films que j'ai vus, mais qui relèvent davantage du hasard. Et je n'ai pas du tout ce rapport, en fait, dans Juste la fin du monde. On a une famille qui carbure à l'agression, en fait, qui se consume les uns les autres, ce qui n'est pas d'ailleurs le cas de ma famille. J'ai pas du tout ce rapport avec ma mère, mon père ou mes cousins, cousines. J'ai vécu quand j'étais adolescent chez mon oncle et ma tante. Mes cousins et mes cousines sont comme des frères et sœurs pour moi. On se voit régulièrement, on joue à des jeux, leur soutien est indéfectible.
Vous n'avez pas vécu l'enfer qu'on voit dans le film.
Mais non,
je suis content pour vous, hein, Marqué.
Mais ce sont les mots de Lagarce qui nous expliquent qui sont ces personnages, en fait.
Momie a été un très gros succès en France et dans le monde, Xavier Dolan. Qu'est-ce que ça a changé concrètement pour vous, à la fois dans votre vie de créateur et dans votre vie tout court ?
Beaucoup de choses, et puis le regard des gens sur moi ou sur mon travail, je pense, changer. J'ai ressenti que des gens qui, peut-être, avant, me méprisaient, mais ne me considéraient peut-être pas, m'ont accepté comme faisant partie d'un groupe d'artistes admissibles à je ne sais trop quoi. J'avais l'impression souvent d'être un imposteur, ou de pas avoir ma place, de pas l'avoir gagnée. Puis je pense que Momie confirmer certaines choses dans des imaginaires un peu plus sceptiques.
Alors, je voudrais revenir d'un mot sur Cannes 2016, où Juste la fin du monde a obtenu, et c'était à mon avis le minimum, le grand prix du jury. Vous avez vécu un moment assez difficile là-bas, Xavier. Une partie de la critique, moi c'est le sentiment que j'ai eu, semblait vouloir vous faire en fait justement payer la reconnaissance publique de Momie, comme si un bon cinéaste devait rester entre guillemets confidentiel. Est-ce que la récompense finale, et puis maintenant la sortie du film, on est dans une autre énergie, est-ce que ça a guéri un peu cette blessure-là ? Est-ce qu'il y avait blessure d'ailleurs, tiens ?
Oui, il y avait une blessure. Il y a encore une blessure. Il y a une faille ou une brisure, mais c'est pas nécessairement une perte de confiance en moi ou en mon travail ou envers les idées que j'ai. C'était une perte de confiance davantage en. J'ai toujours lu les critiques en fait de mes films. J'ai toujours porté énormément d'attention. J'ai toujours trouvé des choses extrêmement utiles, extrêmement éloquentes. C'est vrai que maintenant, à l'heure des réseaux sociaux, puis du like. Puis du retweet, tout est précipité dans une culture de la détestation, puis de l'instantanéité. On veut réfléchir rapidement, le plus arrogamment, le plus mesquinement, le plus drôlement possible. Et les attaques étaient très très personnelles et très cruelles. Je n'ai pas la force émotive et intellectuelle de résister à ces attaques. Je ne suis pas ce genre d'humain, puis je ne suis pas ce genre d'artiste. J'essaie de proposer des histoires qui sont humaines, puis qui sont vraies, et ça vient systématiquement aussi avec une disponibilité émotive en tout temps. On peut pas être ouvert émotivement pour faire un film, puis décider de se fermer émotivement le temps d'une semaine pour un festival au cas où quelques gens nous chient dessus. Et j'ai pas cette force-là, en fait, d'y résister. Et si je me ferme pour les récuser, pour devenir imperméable, je me ferme aussi émotivement dans ma création. Et puis, pour moi, l'important, c'est de créer des films, pas de réagir à des critiques.
En tout cas, vous avouez ces blessures avec beaucoup de franchise. Stéphane, vous avez discuté aussi avec les comédiennes, hein,
oui,
de Xavier Dolan.
Notamment Nathalie Baye et Léa Seydoux, qui, de longs mois maintenant, après le tournage, écoutez, sont toujours sous le charme.
Ah oui, c'est un ovni, c'est un personnage hors norme, c'est un artiste immense. Je pense que c'est la personne la plus libre que je connaisse. Il a une liberté dans ses choix, dans la manière dont il filme, dans ses choix musicaux, il fait ce qu'il veut, quoi.
Il fait les films qu'il aime, il fait les films qu'il a envie de voir, lui. Mais c'est vrai qu'il a aussi une grande imagination. Il nous permet, nous, aux acteurs, enfin, il offre des rôles qui sont des rôles extrêmement puissants et très originaux. Et ça, c'est quand même très rare d'avoir la possibilité d'incarner des personnages aussi singuliers.
Alors, je vais résumer. Hein. OVNI, hors norme, libre, imagination, originale. C'est plutôt pas mal. Il y a un mot que vous pourriez prononcer qui résume ce que vous êtes, j'entends, en tant qu'artiste, hein, évidemment. Comment vous parleriez-vous de Xavier Dolan ?
Je pense que je me décrirais comme honnête aux choses, aux sentiments, aux émotions que j'aime et qui, moi, me transportent. Et ça, je ne me les refuse jamais.
Un tout petit mot, parce que celui-ci sort donc mercredi en France, juste la fin du monde. Le 7e est déjà en boîte, hein, d'après ce que j'ai cru comprendre. Death and Life, pas encore, pas terminé ?
À moitié.
Ouais. Death and Life of John F. Donovan. Le casting est fou, ce sera votre premier film américain, si on résume. Jessica Chastain, Suzanne Sarandon, Kathy Bates, c'est ça notamment. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Allez, je sais, il est tôt, hein, Xavier, c'est pas fini, mais voilà. Comment vous le présenteriez, celui-là ?
C'est une réflexion, en fait, sur la difficulté d'être artiste et puis pour un acteur de télévision, plus concrètement dans le film, qui entretient une correspondance secrète avec un jeune adolescent de 11 ans à Londres. C'est des lettres tout à fait bienveillantes, mais dont l'existence devient sujette à toutes sortes d'interprétations sordides par rapport, justement, aux inclinaisons, aux préférences du personnage principal qui voit sa carrière, sa vie personnelle sombrer dans une spirale, une sorte de chute verticale de laquelle il ne se remet jamais, une espèce de coup médiatique qui l'achève. Ouais. Fin de la phrase.
Elle est restée en l'air, c'est pour ça que j'ai mis un moment avant de démarrer.
Donc j'ai ponctué.
Et ben c'est parfait. Juste la fin du monde, le nouveau film très attendu de Xavier Dolan sort mercredi prochain, le 21 septembre au cinéma. Nous vous faisons gagner des places pour aller le découvrir. Il faut pour ça répondre à cette question que vous pose Stéphane.
Citez-nous au moins deux des cinq formidables comédiens qui jouent dans le film de Xavier.
Réponse au 32-10. Merci beaucoup Xavier Dolan.
Merci à vous.
D'être venu discuter avec nous ce matin de ce film qui sort mercredi prochain. On va marquer une pause et dans un instant on parle musique et télévision. A tout de suite.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Et nous poursuivons ce Laissez-vous tenter avec le journal musical. Bonjour Stéphane Bellery.
Bonjour à tous.
Deux ans après Partout la musique vient, Julien Clerc est de retour. Il vient de dévoiler une chanson inédite.
Un morceau qu'on retrouvera dans un best-of qui sortira le 18 novembre. Son nom, Fan, je vous aime. Ce sera un double album, le premier avec les morceaux incontournables et le second avec des titres un peu plus rares qui seront sélectionnés par les fans.
Bonne idée.
Et en bonus, le DVD de son dernier concert. Le tout sera défendu par une nouvelle chanson, Entre elle et moi, morceau sur la différence d'âge dans un couple. Un hommage de Julien Clerc à Hélène Grémillon, son épouse.
Je me suis rendu compte que certaines chansons clés, que des gens aiment bien, il y avait la femme de ma vie à l'époque qui était impliquée dedans. Ça a été le cas pour Ma préférence, je pense que ça a été le cas pour Femme, je vous aime. Et puis celle-là, c'est certain. Entre elle et moi, c'est un peu de temps, un petit différentiel qui nous tient, et c'est très bien. Il y a un drôle de phénomène qui se passe avec les auteurs, c'est que eux, ils voient avec leurs yeux d'auteur quelque chose dont vous n'êtes pas conscient, vous, que vous leur renvoyez et qui les inspire. Là, ce nouvel auteur, je peux le dire, qui s'appelle Bruno Guglielmi, qui m'a été présenté par mon ami Maxime Le Forestier. Je pense que c'est une rencontre, un dîner tous ensemble, qui a fait que ça lui a donné cette idée-là.
Regardez bien sur la photo, mes bras semblent.
Entre elle et moi, la nouvelle chanson de Julien Clerc a retrouvé dans son best-of une compilation qui précédera la sortie d'un nouvel album attendu à l'automne 2017.
Il est bien avancé. Il y a d'autres chansons avec Bruno Guglielmi. Il y en aura, je pense, au moins deux. Il y aura une chanson avec Vianney, c'est certain. Il y aura une chanson avec Carla, bien sûr. Il y aura une chanson avec Maxime, bien sûr. Tout ça est déjà écrit. Je recherche beaucoup en ce moment aussi de nouvelles collaborations. C'est un petit peu ce que j'ai toujours fait. Essayer de garder mes auteurs emblématiques et puis aussi d'ouvrir la porte à des nouvelles plumes. Les nouvelles écritures, moi, me motivent à m'entretenir musicalement. Et je pense que je l'enregistrerai au printemps prochain.
Sur la photo, mes bras semblent encore si chauds, des siens et de leurs étreintes.
L'annonce de Julien Clerc ce matin sur RTL, alors qu'il dit nouvel album, dit nouvelle tournée, Steven.
Évidemment, une tournée qui aura une saveur particulière pour Julien Clerc. Le chanteur avait rencontré Étienne Rodagil au printemps 1967. Son premier album était sorti l'année suivante. Faites le calcul, Julien Clerc va fêter un bel anniversaire sur scène.
La prochaine tournée sera la tournée des 50 ans de carrière. Ça sera 2018, ça tombe pile. Ça fait peur et en même temps, c'est très excitant. Comme tout le monde, j'ai pensé à certaines époques de ma vie, à 50 ans, j'arrêterai tout, etc., etc. Évidemment, ce sont des promesses qu'on ne respecte jamais. Cette tournée de 50 ans, elle va être passionnante à faire et à monter. J'aurais jamais pensé en arriver à aller jusque-là.
Regardez bien sur la photo, mes bras semblent encore si chauds, des siens et de leurs étreintes.
Fan, je vous aime, le best-of de Julien Clerc sortira le 18 novembre, on en reparlera évidemment. Si vous souhaitez proposer une idée de chanson ou envoyer une photo souvenir qui servira à créer la pochette de ce disque, rendez-vous dès lundi prochain sur le site internet fanjevousaime.fr, fan avec un S, jevousaime.fr.
On poursuit ce journal musical avec une nouvelle chanson de Patricia Cass, Steven.
13 ans après Sexe Fort, la chanteuse fera son grand retour le 11 novembre. Nouvel album de chansons inédites qui fait suite au projet Cabaret et Piaf. On avait découvert en juin Le Jour et l'Heure, balade assez sombre. Patricia Cass dévoile ce matin un autre aspect de l'album, un titre enjoué, féministe. Le morceau, coécrit par Aurélie Saada, du duo Brigitte et Pierre Jouyaume, fidèle de Johnny Hallyday, s'appelle Madame Tout le Monde.
Insolente, insoumise, attachante, libérée, dilettante, bienfaisante, piquante, démaquillée, iconique, discrète, courageuse, ondulante, hypnotique, amoureuse, célibataire et battante, déchaînée et solide, maman ou putain, généreuse, sylphide, du soir et du matin. Madame tout le monde n'a besoin de personne. Madame tout le monde, fidez-vous à ma zone. Madame tout le monde n'a besoin de personne. Les premières, les secondes, elle se vit plutôt femme que madone.
J'adore cette chanson. Madame tout le monde, nouvel extrait du prochain Patricia album Cass. De Patricia Cass, à paraître le 11 novembre. L'album portera simplement son nom.
Et puis c'est agréable de l'entendre dans quelque chose de plus léger, de plus souriant. Journal musical signé Steven Bellery, une pause et on rejoint Laurent Marsic au Festival de la Fiction à La Rochelle, non sans être passé par les audiences télévisées d'hier soir. On va guetter les chiffres de Nicolas Sarkozy. À tout de suite.
RTL Matin,
laissez-vous tenter
avec Yves Calvi.
À 9h22, les audiences de notre soirée télévisée avec vous, Isabelle Morini-Bosque, et nos camarades de Médiamétrie.
Oui, alors hier, si je vous dis que TF1 est largement en tête avec 6 100 000 fidèles devant La Vengeance aux yeux clairs, ça fait plaisir, et aux accros et à la chaîne. Mais évidemment, l'audience la plus attendue, c'est celle de l'émission Impossible. Je rappelle que c'est le titre. L'émission politique, pardon. Oui, l'émission politique.
Ça pouvait être impossible.
Eh bien, 2 697 000, soyons précis, ont suivi de bout en bout Nicolas Sarkozy, 12,1% du public télé global était donc sur la 2. À titre comparatif, la précédente participation de l'ex-président au 20h55 de la 2 avait permis à la chaîne de fédérer 2 730 000 passionnés, donc un peu plus, 12,8% des téléspectateurs face alors aux 7 200 000 de la 1. Oui. C'était des paroles et des actes, c'était en février dernier. Cela dit, Manuel Valls avait lui séduit 2 400 000 personnes en septembre 2015 dans la même émission. C'était donc encore un peu moins. Conclusion, la route va être longue, camarades. Et jeudi prochain, on verra ce que fera Arnaud Montebourg dans la même émission politique.
Et ben voilà, on va guetter tout ça, bien entendu. Direction maintenant La Rochelle, où se tient jusqu'à demain le 18e Festival de la Fiction télévisée. Laurent Marsic, bonjour.
Bonjour Yves, bonjour tout le monde.
Salut bonjour, Laurent. Bonjour.
Vous avez eu deux coups de cœur, mon grand.
Oui, premier coup de cœur pour une fiction que vous verrez bientôt sur France 2, je l'ai vu hier soir. Ça s'appelle Mon frère bien-aimé, c'est le titre d'un unitaire avec un attelage très étonnant, Michael Youn et Olivier Marchal.
Ah oui.
L'histoire en deux mots, c'est celle de deux frères. L'un est un patron riche, tout puissant dans la région de Saint-Nazaire, ça c'est Michael Youn, et l'autre tente de faire tourner la conserverie familiale, c'est Olivier Marchal. C'est un taiseux dans la série.
Oui, oh bah oui.
Un soir, la vie d'un des deux bascule, Michael Youn tue accidentellement sa maîtresse âgée d'à peine 17 ans. Et il y a un engrenage effroyable qui va se mettre alors. Il y a du chabrol dans cet unitaire. Le grand frère Olivier Marchal accepte d'aider son frère. C'est un rôle aussi à contre-emploi pour Michael Youn.
C'est toujours un peu un contre-emploi de me prendre pour jouer un thriller un peu là à la Chabrol, incarner le rôle d'un salaud, plus en subtilité que ce qu'on a l'habitude de me voir faire dans des personnages plus haut en couleur dans les comédies. Mais c'est très agréable.
avec dans cette série une question, les liens du sang seront-ils plus forts que les intérêts personnels? Olivier Marchal, lui, s'est inspiré de son père pour ce rôle.
C'est un rôle de taiseux, bon, mon père était comme ça, c'est un taiseux, c'est un espèce de gros mec qui bossait 15 heures par jour, qui m'a jamais dit je t'aime, il a jamais su me le dire, mais il le montrait autrement. Et voilà, donc je me suis un peu inspiré de mon père pour ça, quoi, beaucoup en fait.
Ça c'est pour France 2 et il y a fort à parier que ce téléfilm sera récompensé demain soir ici à La Rochelle.
Alors votre autre coup de cœur Laurent, c'est pour une série qu'on verra bientôt sur France 3.
Oui, alors pour le coup en 6 épisodes, ça s'appelle L'Accident. Bruno Solo est dans le rôle principal, il est entrepreneur breton et il voit sa vie basculer quand sa femme, la femme qu'il aime, est tuée dans un accident de la route. Bruno Solo ne croit pas au suicide, c'est un pur polar. Et vous allez découvrir, comme Orson Welles, vous savez, qui mettait un postiche sur un faux nez pour tourner dans ses films, et bien Bruno Solo a aussi transformé physiquement son personnage.
J'ai tenu à faire ça parce que la moustache, je crois que j'ai jamais eu la moustache nulle part, ni dans ma vie personnelle, ni dans aucun film. Et je trouvais que déjà ça me changeait, ça donnait quelque chose de commun à mon personnage. Et je tenais vraiment, même dans ses fringues aussi. C'est un type qui s'habille pour pas avoir froid quand il fait froid et qui met une chemisette quand il fait chaud, quoi. Voilà, c'est tout. Mais il a aucune espèce de recherche ostentatoire, de plaire ou de séduction. Donc la moustache, il l'a toujours eu. Il s'est jamais posé la question de savoir si ça y allait ou pas. Donc j'aimais bien.
L'Accident, donc, sur France 3. Et puis France Télévisions, on va aussi clore des séries. Fin des Hommes de l'Ombre, où tout va s'écrouler. Fin aussi, c'est l'événement du jour ici, de Fais pas ci, fais pas ça. Après 9 saisons, le rideau tombe.
Oui.
On a vu quelques secondes des 2 épisodes qui seront projetés tout à l'heure. Je peux vous dire que tout va partir en sucette, comme on dit, avec une fin, une vraie. Ça promet.
Laurent Marsic, en direct du Festival de la Fiction Télévisée à La Rochelle. Merci beaucoup Laurent. On va se retrouver dans quelques instants pour se dire au revoir, se souhaiter un excellent week-end et surtout retrouver Julien Courbet.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Pour courir voir le film de Xavier Dolan avec des places qui vous sont offertes par RTL, il fallait, film intitulé Juste la fin du monde, je le rappelle, il fallait donner 2 des noms des 5 comédiens du film.
Alors, il y avait Mademoiselle Baye, oui. Cotillard, Seydoux, et Messieurs Cassel et Huliel. Ben voilà. Donc 2, c'était bon.
2, c'était bon. On espère que vous irez passer une excellente... On a adoré ce film, que vous irez passer une excellente séance de cinéma. On remercie toute l'équipe en ce vendredi matin et on accueille maintenant notre Julien National.
Ça va Yves?
Bon oui.
Est-ce que vous avez déjà choisi votre débat pour ce soir?
Pas encore.
Bon, ben, je vais peut-être vous en proposer un parce que vous avez entendu parler là, du buzz qu'a fait Afida Turner. Est-ce que vous connaissez?
Oui, nous en parlions il y a encore quelques instants. Voilà, donc, Afida, un buzz d'entrejambe.
Exactement. Donc une vedette de la télé-réalité qui était invitée du MAG Énergie 12. Vous connaissez cette émission?
Non.
Alors c'est un peu le complément d'enquête de la télé-réalité.
C'est vendeur.
C'est gentil, vous êtes gentil.
Et Afida Turner est venue et n'avait pas de culotte. Non, donc coup, quand elle s'est assise, évidemment, ça a fait mouche, hein, sans les attirer.
Est-ce
pour
que
autant.
Par là
pardon, mais non, mais c'est-à-dire qu'on a vu.
Oui.
On a vu. Et là, les gens l'ont accusé sur les réseaux sociaux d'avoir fait exprès pour faire parler d'elle.
Oh, mais non.
Et hier, dans un magazine, elle a démenti, puisqu'elle a dit, je vous assure que c'est vrai, non, car si ça avait été le cas, si j'avais fait exprès, je me serais épilé avant. Vous rendez compte un peu. Et effectivement, pour avoir vu les images. Et j'ai vu les images et elle a raison. Parce que c'est vrai que c'était Afida Turner en haut et Tina Turner en bas. Ça veut dire les choses comme elles sont.
On avait une télé haute définition, faut dire.
Oui. Ça, je suis passé depuis que je suis passé au 16e, je vois tous les détails. Donc, je vous disais, ça fera un bon débat pour LCI. C'est pile dans votre cible, ça. Est-ce qu'elle a fait exprès ou non?
Oui, je crains que ça ne soit pas mon thème de ce soir.
Bon,
mais j'aime en débattre avec vous de bon matin. Hein.
C'est très bien. Voilà, ça sera le débat du matin. Je vous proposerai des débats régulièrement.
Merci, Julien.
Vous prenez ou pas. Bonne matinée à
faites
tous.
Faites une belle émission, on vous écoute.